La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée cette semaine à Lomé, la capitale du Togo, située à l'extrême sud-ouest du pays, tout au bord de la mer et des longues plages du golfe de Guinée. Je vous emmène dans le quartier de Niekonakpoué pour découvrir le palais de Lomé, un monument emblématique de la ville, et vous raconter comment cet ancien palais des gouverneurs est devenu un centre d'art et de culture décolonial. Lorsque les gouverneurs allemands initient la construction du palais de Lomé à partir de 1902, ils pensent à une architecture symbole du pouvoir colonial, une architecture dominante, imposante et visible depuis le large par les navires. Abandonné et finalement livré à la forêt depuis les années 90, l'ancien palais est aujourd'hui restauré et en rupture avec le passé. Ancien lieu d'exclusion, il ouvre ses portes aux visiteurs pour leur proposer un centre d'art et de culture où une nouvelle histoire se raconte du point de vue togolais. Palais de Lomé, une histoire décoloniale. C'est un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, Victor Hull et Sophie Janin. Sonia Lawson, donc directrice de ce projet du Palais de Lomé. Qu'est-ce qu'on leur dit aux auditeurs de RFI?
Déjà, on leur dit « Waison, bienvenue au Palais de Lomé ». Le Palais de Lomé est un centre d'art et de culture, un lieu panafricain qui mêle patrimoine historique, culture et biodiversité. D'un lieu d'exclusion, nous espérons avoir créé un lieu ouvert à tous, être un lieu où l'on se croise pour faire des découvertes, se détendre, rêver peut-être aussi, enrichir ses connaissances sur la culture togolaise, la découverte des artistes contemporains du Togo, mais aussi de l'ensemble du continent, tout en découvrant l'ultra-contemporain pour présenter des artistes d'aujourd'hui.
Bonsoir, je m'appelle Koukbe Kofi Apelété. En tant qu'artiste, on m'appelle Koukof. Je participe à l'exposition d'Igor Justin avec une série d'œuvres qui s'intitule Mind.
Bonsoir, je me nomme Akbalou Ablasika, je suis artiste plasticienne. Je vis et travaille au Togo, à Lomé. Je suis au Palais de Lomé avec le projet d'Igor Justin. Mon œuvre s'intitule « Femme actuelle ».
Et enfin ?
Et enfin, c'est Kodjo Vitesi. Ce projet panafricain d'Igwa Estan, c'est un plaisir. Avec tout ce que ce projet véhicule comme énergie, j'adore. Résilience, nouvelle vision. Là, super. C'est tout un honneur pour moi d'être présent au Palais de Lomé. Je me suis dit, et 2018, je vais rentrer au pays, le palais là, je vais l'occuper. Et je l'ai occupé. Oh, je l'ai occupé.
Sonia Lawson. Ici, au Palais de Lomé, au Togo, on est avec les artistes togolais qui participent à l'exposition Dig Where You Stand. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
C'est une exposition qui a un positionnement très intéressant puisque à chaque étape, elle change son propos et son contenu. Donc elle se renouvelle dans chaque pays côtier qu'elle traverse. Et donc dans cette édition, Seke, Dig Where You Stand, Seke, Seke qui signifie en éveil ancre. Donc s'ancrer, C'est une exposition qui invite aux côtés d'artistes togolais des artistes de plusieurs pays du continent, avec des artistes du Ghana, du Congo, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Nigeria, pour exprimer des problématiques qui nous concernent tous, qui sont liées aux restitutions, à l'usage des matériaux, à la transformation des matériaux, à l'identité, à la manière d'être soi, tout en étant ouvert au reste du monde. Donc c'est une exposition qui a une dimension très vaste et qui englobe plusieurs sujets, plusieurs thématiques et interrogations contemporaines.
On rentre dans cette salle d'exposition qui donne sur le patio intérieur, au rez-de-chaussée. Et c'est là qu'on découvre votre travail, Sika. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de votre œuvre et puis nous raconter ce que l'on voit ?
Le titre de mes œuvres s'appelle « Femme actuelle ». Je suis en train d'honorer la femme d'aujourd'hui, la femme ministre, la femme intellectuelle. Et cette femme-là qui se bat pour l'avenir de son peuple, c'est elle que je célèbre avec ces œuvres-ci.
Donc l'œuvre s'appelle « Femme actuelle », c'est un triptyque, on a trois panneaux blancs, c'est un travail sur du tissu. Et moi je vois des cravates de messieurs.
Les cravates, un outil de noblesse, ça a un langage de prestige. Et quand j'étais toute petite, dans nos communautés, les parents nous éduquent à devenir des claqués, c'est-à-dire des bureaucrates. Presque toutes les maisons veulent des docteurs, des ministres et autres. Mais au fur du temps que nous évoluons, j'ai dû comprendre que l'être humain n'est pas appelé juste à devenir des claqués. J'ai voulu juste utiliser toutes ces palettes de cravates pour démystifier un peu ces mentalités-là, dit l'être humain a besoin de s'exprimer avec là où son âme l'amène, et non la façon dont on nous a formatés depuis là. Et en même temps, nous, en Afrique, on est appelés à être des agriculteurs, ceux qui nourrissent le monde. On ne peut pas porter des cravates pour aller dans les champs. C'est par là que l'idée m'est venue d'utiliser des cravates. J'ai dû toucher à beaucoup de choses avant d'arriver là. Je me plais mieux ici que d'être un jour dans un bureau. Merci.
Merci. On va continuer la balade. Femme artiste, homme artiste. Et on va continuer dans les étages. Je vous suis pour aller découvrir une autre œuvre présentée ici, au Palais de Lomé.
Ça s'appelle Incertitude et résilience.
Incertitude et résilience. Quelles sont les matières que vous avez utilisées ?
Là, c'est du bois. Le bois et le métal. Le bois, pourquoi ? Le métal, pourquoi ? Parce que ces deux matériaux, ce sont des matériaux nobles, assez nobles. Et moi, je cherche à faire un mariage, à rentrer un peu dans les profondeurs de mon Afrique profonde, de mon origine. Comment mes ancêtres, quelle signification ils donnent au bois, quelle signification ils donnent au fer. Bon, moi-même, je me parle de comment des bracelets en métal, pour être protégé. Et ça me protège aussi.
Et là, le bois, il est très foncé, il est sculpté, il est entaillé, comme si il y avait une superposition de rondelles de bois. Et l'une sur l'autre, elles font des formes qui nous font penser à des êtres humains qui viennent se coller, se serrer, et qui, autour d'eux-mêmes, ont comme un immense bracelet, plusieurs bracelets. J'ai plus l'impression que c'est une protection qu'un enchaînement, un enfermement.
J'adore la lecture que vous avez faite de l'œuvre. J'adore cette lecture-là que vous venez de faire de cette œuvre-là. Et je n'ai plus de mots à dire. Vous avez tout dit, quoi. Honnêtement, vous savez, c'est moi, ma façon de célébrer la force de l'humain. dans toutes les adversités possibles, de célébrer comment l'humain arrive à s'en sortir de tous les problèmes aujourd'hui que nous traversons. L'humain, il s'en sort. Il s'en sort toujours.
Et dans le monde contemporain, vous qui êtes des artistes contemporains, la tradition, on peut s'appuyer dessus et on en fait autre chose.
Merci. C'est notre trésor. C'est notre patrimoine. Et là, et moi, je me permets de puiser dans ce patrimoine-là pour dire à la génération présente et future, ah, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ancrez-vous dedans, quoi.
Merci, Tessie. Et on va continuer pour traverser le palais. On va juste en face. Toutes les salles ici donnent sur les jardins. Toutes les salles donnent sur la verdure, les arbres, les oiseaux, avec vue sur la mer. Et là, dans une salle où encore il y a plusieurs artistes, hein, plusieurs artistes africains.
La série d'œuvres que j'ai présentée, c'est le titre de cette série, c'est Mind, la conscience.
La conscience.
Oui, la conscience. Je chante l'être. Et l'être, comme on l'entend en philosophie, je suis un élève de Spinoza et de Nkrumah. Donc, ce sujet-là est extrêmement important pour moi. Ma façon de vivre, ma façon de voir le monde, ma façon de coexister avec autrui.
Je regarde votre œuvre accrochée au mur, assez grande, 3 mètres sur 2 mètres à peu près. Peut-être je peux me dire, tiens, de loin, ça pourrait ressembler à une peau de bête qu'on aura accrochée pour la faire sécher. Alors on va déconstruire cette image. Qu'est-ce que c'est en réalité ?
Moi, c'est une façon pour moi de manifester et d'incarner l'être. Il y a des sortes d'amulettes qui remplissent une bonne partie de la surface de l'œuvre. Ces amulettes-là sont pour moi des nœuds de conscience. Même si celui qui ne m'entendrait pas dire que c'est des nœuds de conscience, quand il les verrait comme, exactement comme des amulettes du genre rituel. Par exemple, chez les chasseurs, quand ils portaient les amulettes, pour eux, c'était une sorte de force, d'énergie qui les habitait, qui les accompagnait.
Quelles sont les autres matières que vous avez travaillées pour cette œuvre?
Oui, à part les amulettes que j'ai utilisées dans cette série, que je vais exploiter pendant longtemps, il y a une matière qui est omniprésente dans mon œuvre, c'est la fibre végétale. Voilà. C'est une matière qui traditionnellement était utilisée comme une éponge pour se laver, pour laver tout. Mais cette éponge végétale, dans nos traditions, ça ne lavait pas que le corps. Ça lavait aussi l'esprit. Ça lave le monde. Donc une façon pour moi aussi, avec mon travail, en travaillant sur l'être, en décortiquant l'être, de guérir le monde.
Merci.
Merci.
Sonia Lawson, c'est vous qui avez porté ce projet de réouverture du Palais de Lomé au grand public. La première fois où vous êtes rentrée dans ce jardin, vous avez découvert ce palais abandonné, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Une sensation très curieuse, car le lieu était très silencieux, calme, un lieu chargé d'histoire, et ce n'était pas un cliché ou une expression qu'on entend mille fois. Là, on sentait le poids et la gravité aussi de l'histoire. Histoire coloniale, mais aussi histoire de la Première République togolaise, du Palais des Hautes de Marque, du lieu qui a connu les événements au tournant des années 90, donc un lieu qui à chaque fois a connu toutes les vicissitudes de l'histoire du Togo et qui est un reflet de cette histoire. histoire de domination, d'exclusion, d'oppression, d'espoir, un lieu qui exaltait aussi la puissance de la nature. Et un arbre m'a particulièrement impressionné, qui était un énorme, énorme ficus emprisonné dans la maçonnerie. Donc c'est quelques sensations face à ce lieu. Une gravité, une forme de gravité, de beauté, de splendeur, de silence. Et le fait qu'on se sent quand même investi d'une charge et d'un fardeau en se disant qu'il faut être à la hauteur du lieu, de ce lieu historique, et comment rendre à la population togolaise un lieu d'exclusion et un lieu aussi qui a connu une histoire plus récente, également douloureuse.
Alors, il faut peut-être revenir un peu à l'idée initiale.
Le professeur Joseph Sigbé, professeur d'histoire contemporaine, me reçoit à l'université de Lomé.
Disons que à la fin du 19e siècle, le projet des Allemands, c'est d'avoir un palais imposant qui illustre la toute-puissance de l'Allemagne. Et quand on voit un peu le bâtiment, on peut dire qu'il y a une parfaite adéquation entre le caractère imposant du bâtiment et l'idée qui est derrière de faire en sorte que même ceux qui sont à bord des navires, de loin, qu'ils puissent voir que c'est l'Allemagne, la toute-puissante Allemagne, qui a construit un bâtiment aussi imposant. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est la population locale qui a travaillé comme main-d'œuvre. Main-d'œuvre bon marché, abondante. Il y a eu des prisonniers qu'on a mobilisés pour travailler sur le chantier. Mais il y a eu aussi des Togolais qui n'avaient pas une qualification assez poussée, qu'on a mobilisé, et certains étaient payés à 0,25 marques par jour. Mais l'histoire nous dit aussi qu'il y a eu des techniciens qu'on a fait venir d'Allemagne pour pouvoir construire cet édifice-là.
Alors justement, est-ce qu'on peut décrire ce bâtiment ? Plusieurs gouverneurs, ils sont trois, à avoir imaginé successivement ce palais des gouverneurs à Lomé, qui devient capitale à l'époque du Togoland. Quel bâtiment, finalement, va naître de l'imagination de ces trois gouverneurs allemands ?
Alors, il faut dire d'abord que c'est un bâtiment très beau. Un bâtiment très beau qui suscitait l'admiration de tous les visiteurs, de tous ceux qui passaient par traverser le Togo à l'époque, que ce soit de la Gold Coast vers le Dahomey, qui passaient par là parce que c'est au bord de la route, en tout cas, et ceux qui étaient dans les navires, qui regardaient de loin. Un bâtiment très beau, un bâtiment à étages. Et à l'époque, on a privilégié la couleur blanche, ce qui faisait distinguer, si vous voulez, la couleur du bâtiment parmi les bâtiments qui étaient dans l'environnement immédiat à l'époque. Et on voit que c'est un bâtiment qui avait des tours, qui portaient un mât avec le drapeau allemand. Ça, c'était un projet qui tenait à cœur au gouverneur Köhler parce qu'il voulait qu'on puisse voir de loin le drapeau allemand pour signaler que c'est une œuvre allemande.
Professeur Sigbé, le palais des gouverneurs allemands et ensuite britanniques et puis encore français pendant 40 ans. Et que devient le palais des gouverneurs au moment de l'indépendance? Est-ce que le premier président togolais, Sylvanus Olympio, se réapproprie le palais de Lomé?
À l'indépendance, le centre du pouvoir postcolonial y a siégé jusqu'en 1970. Et c'est à partir de 1970 que le bâtiment a été affecté au ministère du Plan. Et à partir de 1976, le bâtiment a changé encore de vie pour devenir le palais des hôtes de marque. Et les hôtes de marque, ce sont les présidents des pays frères qui visitaient le Togo, qui étaient en mission au Togo. On les logeait là-bas.
Professeur, est-ce qu'on peut citer quelques noms de ces hôtes de marque qui ont séjourné au palais de Lomé ?
En effet, on peut citer le nom du président Félix Houphouët-Boigny, qui était l'hôte de marque le plus régulier là-bas. Il adorait ce palais-là. Il venait même se reposer dans ce palais. Alors, on peut citer aussi Hissène Habré, qui, au moment où il avait Maya partir avec des gens de son pays, où le président Eyadema intervenait pour faire la médiation entre lui et ceux qui le contestaient, il venait et il logeait là-bas. Mais on peut dire concrètement qu'entre 1982 et 1990, il y a eu une quinzaine de présidents africains, mais aussi des présidents qui sont venus de l'Asie, qui sont venus de l'Amérique latine, qui y ont logé. Donc, c'est ça qui a fait une certaine renommée de ce palais des hôtes de marque.
Professeur Joseph Tigbé, cet ancien palais des gouverneurs qui est devenu le palais du premier président togolais, Sylvanus Olympio, a aussi monté son propre drapeau, puisque pendant la période coloniale, c'était le drapeau allemand qui flottait au bout du mât et qu'on pouvait voir de très très loin depuis l'océan Atlantique. Mais au moment de l'indépendance, il faut inventer un drapeau pour le Togo. Est-ce qu'on peut décrire ce drapeau qui flotte et qui flotte toujours sur le palais de Lomé?
Alors, il faut dire que c'est un drapeau qui a été adopté par ordonnance du 23 avril 1960. Et ce drapeau togolais est composé de différentes couleurs, des bandes jaunes, des bandes vertes, un carré rouge avec une étoile blanche. La couleur blanche renvoie à la pureté. La couleur rouge renvoie au sang des martyrs, ceux-là qui ont versé leur sang pour que le Togo devienne indépendant. La couleur verte renvoie à nos richesses en termes d'agriculture et incarne aussi l'espoir. Et la couleur jaune renvoie aux ressources minières que nous avons ici au Togo. Donc c'est ce drapeau qui trône sur le bâtiment à l'indépendance. Et il faut préciser que le président Sylvanus Olympio a reçu un hôte de marque, non des moindres, à l'indépendance. C'est l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié.
Professeur, après le coup de force militaire de 1991 et les événements sociopolitiques qui ont endommagé le palais, le bâtiment est abandonné pendant une vingtaine d'années. Du point de vue de l'histoire du Togo, qu'est-ce que symbolise la réouverture, la rénovation de l'ancien palais des gouverneurs? En tant qu'historien, quel symbole vous voyez dans cette renaissance?
Je pense que la rénovation et la réouverture au public de ce palais qui date de l'époque coloniale est une réappropriation de l'histoire du Togo. Pourquoi ? Parce que pendant la période coloniale, n'importe qui n'allait pas visiter ce palais parce que c'est le centre du pouvoir. Cet endroit était protégé et on ne le visitait pas comme on voulait. Et donc, le fait que cet espace devienne un espace ouvert au public, où tout le monde peut aller, c'est une façon de dire qu'on tourne la page. Sonia Lawson, comment vous avez abordé du coup la rénovation de ce lieu?
avec le désir d'être fidèle à son patrimoine architectural, mais sans respecter l'esprit qui a présidé à sa construction et qui est un esprit d'exclusion et de domination. Donc le projet sélectionné a été sélectionné pour son respect du patrimoine historique. Et c'était aussi une aventure humaine, dans la mesure où nous avons travaillé donc avec des architectes, 10 entreprises togolaises, des ouvriers, tous ces corps de métier qui ont contribué à la restauration du patrimoine et que je tiens ici à saluer. Donc la maçonnerie, comment reconstituer certains détails architecturaux tels que la balustrade qui avait été envahie par un arbre, comment aussi prendre soin à veiller à ce que tous les détails de moulures soient restitués dans leur vérité historique, dans leur authenticité historique. Je ne m'attendais pas à apprendre, à vrai dire, autant de choses sur la nature, sur les travaux, puisqu'on a appris aussi à se connaître au fil du temps. Lors d'échanges, c'est ainsi par exemple que j'ai découvert toute la richesse végétale en discutant avec le chef de chantier qui, en plus d'être dans la maçonnerie, s'intéressait aussi et savait le pouvoir et la capacité de soigner des plantes. Donc ça permet aussi de respecter d'autant plus toutes ces personnes qui sont intervenues et qui ont contribué à la restauration de ce lieu. Et je pense que c'est aussi grâce à elles que le lieu a été décolonialisé en quelque sorte, puisqu'il était réellement investi par des savoir-faire togolais. À la fin du chantier, quand les ouvriers ont vu leur œuvre et qui se promenaient avec fierté en disant « mais c'est nous qui avons fait cela », ça a été aussi un moment de fierté et d'émotion parce qu'ils ont vu la finalité de ce qu'ils faisaient.
Recevez. Qui c'est qui?
Salut.
Toi, je te sens venir.
C'est un témoin de la bonté divine. Un vrai scandale de beauté. Supplice des femmes, fantasme des hommes. Surprise vague et précieuse forme de l'or. Elle est naturelle, faite de chair et de sang.
Quand j'ai conduit mes étudiants pour aller visiter ce palais,
professeur Joseph Sigbé,
les étudiants en histoire qui ont appris l'histoire de ce palais, qui s'y rendent, se posent des questions inévitablement sur l'histoire coloniale, sur la façon dont nos parents ont été asservis pendant la période coloniale. L'autre chose, c'est que dans la logique de la Renaissance africaine et surtout de l'analyse postcoloniale, le fait d'ouvrir, de réaménager cet espace et de l'ouvrir au public montre que le Togo veut voir son histoire en face et occasionner le dialogue interculturel. Aujourd'hui, les Allemands vont là-bas, ils posent un regard critique sur leur histoire coloniale en regardant ce bâtiment. Les Togolais y vont, se rappellent de tous les efforts que leurs parents, leurs aïeux, ont eu à fournir à coups de bâton, à coups de punition, pour que ce bâtiment devienne une réalité. Et les deux peuvent regarder ce bâtiment devenu désormais un lieu de mémoire dans une logique et approche de regard croisé.
Écoutez RFI, la marche du monde.
Alors vous, Sonia Lawson, en tant que directrice du Palais de Lomé, vous développez ici bien sûr des projets culturels. On l'a compris, ici aussi c'est un lieu de patrimoine historique. Mais ce qui est très important aussi pour vous, c'est cette dimension de biodiversité. C'est vraiment le troisième axe de votre travail et du développement du projet du Palais de Lomé.
Quand on découvre le palais pour la première fois abandonné, on sent malgré tout la présence de la nature, des arbres qui étaient partout, donc qui envahissaient aussi le bâtiment, mais dans une sorte de fusion et de mariage entre la nature et le bâtiment. Et donc, il était évident qu'il fallait préserver cette biodiversité. biodiversité qui existait à l'époque de la conception du bâtiment. Le parc est un parc avec des arbres centenaires, mais aussi des arbres qui ont poussé spontanément lors de l'abandon. Donc ça, ce qui était intéressant, en fait, c'était cette spontanéité face à un parc aménagé par l'intervention humaine.
Et là, justement, à vos côtés, vous avez aussi un conseiller, quelqu'un qui connaît très bien les plantes et qui vous a guidé aussi pour mettre en œuvre ce jardin. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Bien sûr. Donc, Monsieur Akoli Hieglo, qui est à l'origine chef de travaux, j'ai découvert par hasard qu'il était aussi médecin traditionnel. Et comment l'ai-je découvert ? Parce que certaines plantes qui me paraissaient sans aucun intérêt, grâce à des conversations ou des tours de conversation avec M. Akoli, j'ai pu découvrir que c'était des trésors.
M. Akoli, qu'est-ce qu'on trouve comme plante dont on peut se servir pour soigner ?
Il y a une plante non loin d'ici qu'on peut vous montrer tout de suite.
Eh bien, on y va. On y va. Sonia, on y va.
C'est quelle plante ?
Un clive long.
Un clive long.
Avec épines.
Oui, ça traite les choses de la peau.
Donc voilà, on quitte l'allée, une des grandes allées du palais. Et puis on rentre dans la forêt, dans les arbres, les palmiers, différentes essences d'arbres. Voilà, on s'approche avec les spécialistes, monsieur Akoli et docteur Agbessi.
Les épines. Et souvent, c'est ça qu'on appelle lihoin. Bon, et c'est une plante antibiotique. C'est une plante antibiotique. Quand on goûte, c'est amer. Vraiment.
Quand
amer.
On goûte les feuilles.
Oui, c'est amer. Mais ça traite les angines de gorge et ça traite des maux de ventre. À peu près, c'est ce que je connais de cette plante. Les feuilles commencent à pousser rouges et quand ça grandit, ça prend de l'âge, ça devient vert.
Donc on a toute la pharmacie
oui,
ici.
Oui, c'est une boîte de pharmacie qu'on a ici et sans le savoir.
Et on a bien compris que vous étiez le gardien de cette pharmacie. Donc Sonia, on a failli ne plus avoir cette plante antibiotique.
C'est une plante qui paraît totalement anodine, d'aspect totalement anodin quand on ne la connaît pas. Grâce à M. Akoli, grâce à des échanges avec lui, j'ai pu découvrir énormément de vertus insoupçonnées de ces plantes et apprendre aussi, donc j'étais aussi à l'école des plantes.
À l'école des plantes sont aussi les élèves du quartier accueillis ici, dans les jardins du palais. Et grâce au parcours vert, ils apprennent à reconnaître les plantes médicinales, les essences d'arbres, mais aussi les bienfaits de la teinture naturelle.
Il y a bien une chanson avant qu'on arrive là-bas. Hein.
Oui.
Une petite chanson, on l'écrit en bas, mollo, mollo. Tout le monde connaît ça ?
Non.
D'accord.
1, 2. Garçon, voici l'aurore. Levez-vous dans la joie. Déjà le soleil dort. La cible d'un envoi. Le cœur battant tout en chacun. La fin d'un du moment. Si beau battant, sauter la chancelle.
Bonjour les enfants.
Bonjour monsieur.
Comment vous allez?
Nous allons bien, merci. Et vous?
Ça va très bien. Ce matin, vous êtes où?
Monsieur. Au palais de Lomé.
Venez voir par là.
Ce matin, nous sommes à l'atelier de teinture et de savon naturel. Vous venez de voir tout de suite, on vient de piler
les feuilles de l'indigo.
Voilà le résultat que ça donne.
Les enfants,
le début, donnez-moi le blanc.
Les enfants, je vous demanderai l'indigo. On a écrit les feuilles d'indigo, quelle couleur ça donne? Il faudra retenir.
C'était le blanc pur. Et actuellement, ça a changé de couleur. Ça va devenir bleu. Avec le contact de l'oxygène et du soleil, ça devient un peu bleu. C'est bon?
Oui. Ici, on a jeté l'eau. Est-ce que quand on jette l'eau comme ça, ça pollue la terre? Pourquoi? Parce que ce n'est pas industriel. C'est la teinture végétale naturelle. D'accord? Donc ça, on peut jeter par terre, ça ne va pas détruire le sol. Mais si on fait ça avec les produits chimiques, on ne peut pas jeter par terre après. Si on jette par terre, ça va attaquer le sol. Après, on ne peut plus faire pousser des fruits, des légumes, les plantes. D'accord? Je suis Johanna Faye, je suis chargée de projet au Palais de Lomé. Et aujourd'hui, on accueille des enfants des écoles du quartier pour le parcours vert et des ateliers autour du parc du Palais de Lomé. Non, ils ne vont pas noter après. D'abord, on écoute, après on va noter. On va faire un rappel après.
Le curcuma, vous voyez? On a le curcuma. Une fois que c'est pilé, on a trempé le tissu blanc. C'est devenu quelle couleur?
Orange. Ah, orange ou jaune, ça dépend. Jaune.
Vous voyez? Donc ça, c'est une teinture naturelle.
Pas de produits chimiques.
Pas de produits chimiques. Tout le monde a vu, on a pilé, on a trempé et ça a donné une couleur. C'est bon?
Oui.
D'accord.
Oui, vas-y, Poli.
Teinture végétale.
Voilà.
Naturelle. Plante.
Marbel.
Manuel.
Alors le petit Eric a beaucoup grandi. Vous êtes un enfant du quartier. Vous êtes devenu docteur en biologie, Eric Agbessi, expert en biodiversité. Est-ce qu'on peut dire un peu les noms des arbres qui nous entourent? Ils sont très grands, beaucoup d'arbres ici font plusieurs dizaines de mètres de hauteur.
Oui, il y en a tellement, il y a des centaines justement, ça qui fait la beauté, la richesse de ce palais. Vous voyez les arbres qui dominent ici, là où nous sommes, ce sont des badamiers, et on appelle enneveux, yuvuziti, et son nom scientifique c'est Terminella catapa, comme vous le voyez, ça produit des fruits comestibles qui rapportent aussi de l'argent quand on exploite la menthe, et puis on le vend. Et à quelques mètres, nous découvrons des deux pieds de veuve pleureuse, qu'on appelle Polyatia longifolia, c'est une plante d'ornementation. Et d'ornement est très joli.
Donc ce sont deux grandes tiges et là cette fois les feuilles sont beaucoup plus longues, elles font une quinzaine de centimètres, elles sont allongées, elles sont crénelées sur les côtés. Il y a beaucoup de feuilles différentes, hein. On a des feuilles qui sont très rondes, très larges, on a des feuilles qui sont très longues, très fines. On a évidemment des vers différents, beaucoup d'espèces différentes. Monsieur Accoli.
Oui, nous sommes devant un iroko. Et un arbre appelé iroko. Et iroko, et chez nous, c'est un arbre fétiche. Et ceux qui sont intéressés, ils font leur cérémonie. Souvent, ils font habiller l'arbre avec, vous voyez, des tissus. Et il y a trois couleurs souvent. Il y a le blanc, le bleu et le rouge qui font habiller ici.
L'arbre s'appelle logoti. En langue évé, c'est un arbre sous lequel traditionnellement on fait des rituels, ici au Togo. Et c'est un arbre aussi dont vous pouvez nous parler, monsieur le scientifique.
Oui, c'est vrai que c'est un arbre qui peut prendre des diamètres plus de 3 ou 4 mètres. C'est un grand arbre qui peut dépasser, même dans le tronc, à l'âge adulte, peut dépasser tout ce que nous voyons ici. Naturellement, c'est un arbre fétiche. Il y a la divinité qui se tourne autour d'eux. Les adeptes, quand ils le regardent, ils protègent, ils conservent, ils n'aiment pas qu'on le touche. Même si ça a une valeur commerciale importante en termes de bois d'œuf.
Quand on parle de rituel, on parle d'un rituel vaudou ou d'un autre rituel?
Non, rituel vaudou, tout simplement. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus ces traditions qui sont bien ancrées, c'est-à-dire se permettre de couper. Avant, tu coupes, tu meurs, ou bien c'est la malédiction qui s'abat sur toute ta famille.
Sonia Lawson, comment vous intégrez finalement ces savoirs ancestraux ou ces rituels vaudou dans justement le développement de ce jardin?
Dans son développement, justement, parce que nous respectons les rituels et les codes ancestraux, nous avons choisi de l'entourer d'un tissu blanc pour identifier, pour que les visiteurs puissent l'identifier comme un arbre différent. Et c'est aussi l'occasion de partager avec les visiteurs ces connaissances et ces traditions autour de cet arbre sacré. Ce qui est intéressant également, c'est que nous avons eu des visiteurs d'Haïti. Chez eux, Iroquois, ils le disent comme ici. Eux, ils prononçaient le mot Lokoti pour identifier un arbre qui, pour eux, est sacré et mythique. Et pareil chez les Brésiliens, aussi les Brésiliens, l'Iroquois, Lokoti est aussi un arbre sacré. Donc ça nous a aussi permis, à travers cette nature et cette végétation, de voir les liens et les ponts qui se sont tissés entre l'Afrique et les Caraïbes.
Alors on a beaucoup de chance dans cette balade dans le jardin. On a un docteur en biologie, on a un maçon qui est également spécialiste des plantes médicinales. Et puis on a vous, Mike Oussinou, vous êtes le représentant local de l'African Bird Club. Vous êtes un passionné d'ornithologie que vous pratiquez avec quelques amis ici à Lomé. Vous vivez depuis 1970, vous êtes arrivé à l'âge de 10 ans. Les oiseaux, on les entend tout le temps dans ce jardin du Palais de Lomé, ici au Togo. Quel rôle ont-ils dans le cycle de la biodiversité ?
Je pense que les oiseaux, comme tout être vivant, a sa place dans l'environnement que nous occupons. Et la raison pour laquelle nous trouvons énormément d'oiseaux dans ce parc, c'est la principale raison, c'est qu'ils s'y sentent bien. Ce parc a été bien entretenu, c'est-à-dire la partie sauvage est préservée tout en gardant une propreté. Ici, on n'utilise pas ni pesticides ni herbicides, ce qui permet aux insectes de se développer également. Et ces insectes font partie de la chaîne alimentaire de ces oiseaux. Donc automatiquement, ils sont au restaurant et par la même occasion, ils ont trouvé une place pour y nicher et se reproduire. Parce qu'ils se sentent à l'abri.
Alors on les entend, c'est ce que je disais, vous les observez avec vos jumelles, vous les écoutez. Quels sont les oiseaux que l'on entend dans ce jardin ? Quels sont les oiseaux que l'on peut découvrir dans le parc du palais de Lomé ?
Pour le moment, nous n'avons dénombré qu'une cinquantaine d'espèces d'oiseaux sur les 610 qui existent au Togo. Et je pense pouvoir en dénombrer encore un plus grand nombre avec les amis qui m'accompagnent dans cette aventure. Parce que nous avons les oiseaux nocturnes qui n'ont pas encore été approchés. Pour le moment, nous n'avons fait un recensement que dans la journée. Et de même, il faut tenir compte des oiseaux migrateurs qui passent à certaines saisons de l'année, qui ne sont pas toujours présents, mais il faut continuer à observer et dénombrer.
Alors selon les heures de la journée, on ne les entend pas de la même façon.
Les premiers à donner de la voix au Togo et aussi dans ce jardin sont les bubules des jardins. Ils chantent énormément. Ensuite, vous avez le merle africain, vous avez les choucadors à longue queue, les irisomes au cœur. On a beaucoup d'oiseaux chanteurs dans ce parc.
Alors, moi, j'ai envie d'aller observer avec vous.
Ici, nous avons pas mal de chants. Écoutez bien, vous entendez ? Nous avons et le tisserin gendarme et le bubule des jardins. Si on fait attention, on va peut-être pouvoir en observer un. Quand vous voyez une petite boule jaune se promener, vous êtes sûr de l'avoir vu.
Donc des petites boules jaunes, ce sont nos tisserins... Tisserins gendarmes et nos petites boules rouges, ce sont les fruits qu'ils viennent lecter.
Il faut qu'en pêcher. Les mâles, ce sont surtout les mâles qui chantent. Hein. Ils chantent pour marquer leur territoire ou séduire les femelles. Les spécialistes savent reconnaître jusqu'à 900 chants différents. Et je n'en suis pas à ce point.
Et là, Mike, qu'est-ce qu'on entend ?
Ah, un hérisson moqueur. Alors, c'est un oiseau magnifique. Il est bleu métallique. Le bec est allongé, orange. est vraiment magnifique.
Moi, j'ai craqué sur cet oiseau-là, parce que celui-là, je l'ai vu.
Donc là, ça, c'est une de mes vues préférées, parce que quand on arrive ici et qu'on marche sous les cimes des arbres, on a l'impression de marcher sous des voûtes d'un temple, d'une cathédrale, et on avance doucement jusqu'au palais. Donc c'est vraiment, ça a toujours été une de mes allées préférées. Et le soir, quand on l'illumine et que vous avez juste les cimes, il y a quelque chose de tellement majestueux, et voire magique aussi, dans cette allée-là. Le lieu était le palais des hôtes de marque. Dans les années 70, on l'appelait palais des hôtes de marque de la République togolaise. Et ce que j'aime à dire à nos médiateurs, c'est que les hôtes de marque sont désormais tous nos visiteurs, comme les enfants, comme des personnes qui sont intimidées, qui n'ont pas l'habitude de visiter des lieux culturels. Nous les recevons avec le même respect pour leur marquer qu'ils sont ici chez eux. Et finalement, chacun repart de sa visite avec un petit morceau de l'histoire du Togo, de son patrimoine, naturel, culturel, une découverte d'artistes contemporains du Togo, mais aussi d'autres parties du continent, parce que nous avons une vocation panafricaine, parce qu'il nous paraît important que le public togolais lui-même connaisse déjà nos artistes togolais et découvre aussi d'autres artistes du continent. Et que demain, on puisse citer avec la même aisance qu'on cite les Picasso, qu'on puisse citer des artistes africains.
Eh bien, moi, je citerai le nom de Kofi Agassi, designer génial, disparu en 2017, que j'ai découvert ici, au Palais de Lomé. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, tourné au Togo. Palais de Lomé, une histoire décoloniale, un documentaire signé Valérie Nivelon, Victor Hull et Sophie Janin, avec la participation des artistes Koukoff, Akpalou Ablasika, Kodjo Votessi, le professeur d'histoire contemporaine Joseph Sigbé, les enfants de l'école Ndiaye Boubacar et leur instituteur Apelété d'Onicédé, messieurs Akoli Yeglo, chef de chantier et praticien en médecine traditionnelle, Eric Agbessi, expert en biodiversité, et Mike Oussi, nous, représentants de l'African Bird Club. Et bien sûr, tous nos remerciements à Sonia Lawson, directrice du Palais de Lomé, à sa collaboratrice Johanna Faye et à toute l'équipe des médiateurs. Plus d'infos sur la page RFI.fr de La Marche du Monde. Retrouvez tous nos épisodes sur notre appli RFI Pure Radio, rubrique Histoire. Réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.